Merci à toi, Stéphane, de m'avoir invité. Tu m'avais proposé donc de parler de mon travail sur le rayonnement fossile, mais quand j'ai vu le contenu de ton cours, j'ai tout de suite percuté. J'ai pensé que je devais en fait vous montrer, plutôt que de me focaliser sur les aspects, disons, de cosmologie et tous les détails de ce que j'ai fait, en profiter pour vous donner une petite idée des méthodes et des principes qu'il y a derrière, et en particulier de leur illustration par la géométrie de l'information. Je vais quand même commencer par vous parler donc du rayonnement fossile. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez vu une planche de Brice Ménard qui vous montrait à peu près la même chose. Donc ça, c'est l'évolution de l'univers au cours des âges, dans notre théorie standard du Big Bang, avec un univers qui commence très chaud, très dense, qui subit une grande expansion. 13 milliards d'années plus tard, on est ici, on peut regarder dans le ciel, et on voit vraiment l'histoire de l'univers qui nous arrive progressivement. En particulier, Brice, vous avez montré un relevé de galaxies. Tous les points qui sont ici, ce sont des galaxies qui se forment au cours des âges et qu'on est capable aujourd'hui d'identifier, de caractériser, de faire des catalogues qui nous renseignent sur l'évolution de l'univers. Mais dans les planches de Brice, au tout début, à l'origine des temps, ou presque, il y a une période noire, et ce qu'on appelle les âges sombres de l'univers. On ne peut pas voir, non pas parce que c'est trop loin, mais parce que, en fait, aucune structure ne s'est encore formée dans l'univers, il n'y a pas encore d'étoiles ni de galaxies, donc on ne voit rien. On ne voit rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, en fait, on ne voit aucun objet formé, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. En réalité, on est capable de saisir la lumière qui baigne en réalité l'univers à cette époque-là, et depuis en fait un moment qui s'appelle le moment de la recombinaison, qui est figuré ici. C'est le moment où l'univers passe d'un état très chaud à un état un petit peu moins chaud, et où l'univers qui était un plasma devient en fait un gaz qui est transparent, et donc ce gaz relâche la lumière qui interagissent avec le plasma. Cette lumière se propage jusqu'à nous, presque inchangée. En fait, l'univers, l'essentiel de l'univers qu'on voit ici, c'est un univers qui est transparent. Et donc, on peut voir cette lumière primordiale, qu'on appelle donc le fond diffus. Alors, le fond, parce que c'est ce qui est tout au fond, hein. On ne peut rien voir de plus vieux que ça. On peut voir ce fond, il est diffus parce qu'en fait, il n'y a pas de structure, c'est juste un champ. Qui a tous les aspects d'un champ aléatoire. Et il est cosmologique parce qu'il nous renseigne sur la cosmologie, sur l'évolution de l'univers. On peut voir ce fond en arrière-plan, mais il y a tout un tas d'avant-plans qui sont constitués par toutes les émissions de tout ce qu'il y a dans l'univers qui viennent se superposer linéairement, il n'y a pas d'occlusion, et qui constituent ce qu'on peut voir dans le ciel aujourd'hui. Alors, pour voir tout ça bien, une très belle et très grosse mission de l'Agence spatiale européenne qui a été lancée, une grosse opération, vous voyez ici le nombre de personnes impliquées, le coût de l'affaire, un beau satellite qui a été envoyé au point de Lagrange numéro 2, c'est là où vient de s'installer le James Webb Space Telescope, si vous avez suivi un petit peu l'actualité scientifique, un endroit parfait pour observer tranquillement ce qui se passe dans l'univers. Et ce qu'a vu Planck, on peut le résumer ici. Donc le satellite Planck, il était capable de faire des cartes tout le ciel de l'univers, donc chacune de ces ellipses, ça représente en fait la voûte céleste mise à plat. Il y avait 9 canaux de fréquence qui correspondent à des longueurs d'onde du centimètre ou du millimètre, qui donnent différentes vues du ciel, parce que les différentes choses qui sont dans le ciel n'émettent pas avec la même intensité en fonction de leur longueur d'onde. Bien, ça c'est ce qu'a vu Planck. Et si vous avez lu le journal à cette époque, vous n'avez pas vu ça, vous avez vu ça. Voilà, donc là on se vante un petit peu en montrant qu'on fait la couverture quand même des grands journaux internationaux. Ce à quoi donne accès Planck, c'est une carte de l'univers vraiment primordiale, un univers bébé, une carte qui est en fait une carte de la, température apparente de ce rayonnement diffus, telle qu'on peut la mesurer dans différentes directions du ciel. Et le modèle de Big Bang s'appuie énormément sur une analyse fine de cette carte-là. Vous ne voyez rien, mais c'est normal, parce qu'il ne s'est encore presque rien passé dans l'univers. L'univers est tout jeune, et il y a cependant des petites fluctuations de température, c'est ce qui est représenté sur cette carte, fluctuations qui sont la trace du fait que l'univers n'est pas parfaitement homogène. Il y a des endroits avec des surdensités, des sous-densités. C'est l'évolution de ces fluctuations de densité qui va donner lieu à la formation de toutes les grandes structures de l'univers. Voilà, donc c'est notre univers en germe, 380 000 ans après le Big Bang, il y a 13 milliards d'années. Alors, ça, c'est ce que voit Planck. Ça, c'est notre pub. Et comment on passe de l'un à l'autre ? Et on peut combiner linéairement en fait, les différents canaux d'observation du satellite Planck pour extraire le rayonnement diffus. Là, vous voyez que par une bonne combinaison linéaire de tous ces différents canaux, on peut en fait, extraire une des composantes, qui est la composante d'intérêt, une composante sous-jacente, le rayonnement fossile. Et ce qui est assez étonnant et qui fait ma joie et ma fierté, c'est que la façon dont on a procédé pour extraire cette lumière primordiale de nos observations, la méthode qui a été retenue parce qu'on a essayé vraiment beaucoup, beaucoup de choses, c'est une méthode d'analyse en composantes indépendantes, c'est-à-dire une méthode qui va chercher, à travers des signaux multicapteurs, des signaux sous-jacents, en ne s'appuyant que sur l'idée d'indépendance statistique entre les différentes composantes de vos observations. Voilà, donc ça, c'est une idée dont je vais vous parler un peu plus en détail maintenant. Ça s'appelle la séparation de sources en aveugle, ou ça s'appelle l'analyse en composantes indépendantes. Et c'est une idée qui est très générale, en fait. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui essaient d'appliquer ces méthodes dans le domaine de l'audio. Dans le domaine audio, ça s'appelle le problème de la cocktail party. Vous avez plein de microphones dans une pièce, il y a un brouhaha, et vous devriez combiner vos différents capteurs pour vous focaliser, pour extraire le signal qui vient d'un locuteur particulier ou bien d'un instrument de musique particulier si vous faites de la prise de son orchestrale, etc. Je ne vais pas rentrer dans... Alors, il y a des produits commerciaux qui existent, des softwares qui sont vendus pour faire ce genre de choses. Je ne connais pas très bien le domaine audio. Ce que je voudrais utiliser pour illustrer la suite, c'est des signaux qui sont toujours des signaux réels, mais des signaux ici d'électrocardiographie. Donc, vous avez à gauche ce qui sort de 8 électrodes qui sont placées sur le thorax et l'abdomen. Et qui sont des électrodes qui vont donc être capables de détecter, enfin de mesurer les signaux cardiaques en fait. Et ce que j'ai montré à droite, c'est ce qui résulte d'une analyse en composante principale de ces signaux. L'analyse en composante principale, c'est une approche hiérarchique pour décomposer un signal en composantes élémentaires, qui consiste à essayer de trouver la composante qui a la plus grande puissance. On la soustrait, on regarde ce qui reste. À ce qui reste, on extrait encore la composante la plus forte, et puis on procède comme ça hiérarchiquement. Donc c'est l'analyse de composantes principales, c'est une décomposition hiérarchique basée sur la puissance. Il y a une autre façon de définir l'analyse de composantes principales, qui est une méthode extrêmement simple à mettre en place, parce que le poids avec lequel chacun de ces composantes principales, le poids avec lequel elle intervient dans les signaux capteurs, les colonnes qui sont là, c'est pas autre chose que les vecteurs propres de la matrice de covariance. Donc c'est un truc qui est super facile à faire. On prend les signaux, matrice de covariance, diagonalisation, enfin extraction des vecteurs propres, on projette sur ces vecteurs propres et voilà ce qu'on trouve. Cette analyse de composantes principales, on peut la voir un petit peu différemment. Elle a une propriété très importante, c'est qu'elle vous fournit des signaux qui sont décorrélés. C'est-à-dire que si je corrèle deux signaux I et J, enfin deux composantes, les composantes qui sont obtenues ici, elles sont décorrélées. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donc ça ressemble un petit peu à une analyse en composantes indépendantes, mais la décorrélation, ce n'est pas l'indépendance. C'est beaucoup plus faible, beaucoup, beaucoup plus faible. En particulier, la décorrélation est toujours possible. Et puis, elle n'est même pas unique. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de façons, une infinité de matrices ici, qui correspondraient à des signaux sous-jacents décorrélés. Si vous voulez obtenir une décomposition unique, il faut requérir que, par exemple, les colonnes qui sont ici sont des colonnes orthogonales. Donc, c'est ce que fait l'analyse des composantes principales. Et ça marche très bien. Mais si vous n'êtes pas intéressé à la puissance, qui est le plus fort, mais à la qualité, qui est le plus intéressant, c'est pas ça qu'il faut faire, parce qu'il n'y a aucune raison que les signaux intéressants soient associés à des colonnes orthogonales. Bien, donc, imposer l'unicité d'une décomposition décorrélée à travers l'orthogonalité des colonnes, ici, c'est pas génial. Et ce qu'il faut signaler, c'est que c'est pas non plus. La condition de décorrélation ne vous permet pas d'avoir une décomposition unique, parce que cette condition de décorrélation, elle est symétrique. Donc, si vous voulez, on a nn-1 sur 2 conditions de décorrélation, alors qu'en fait, on voudrait identifier n au carré composante entrée dans cette matrice que je vais appeler dans la suite la matrice de mélange. Alors, l'idée ici, c'est de remplacer une condition de décorrélation par une condition d'indépendance. Et c'est ce que je vous montre ici, une analyse en composante indépendante de ces signaux, qui correspond en fait à trouver les composantes les plus indépendantes possibles. Et voilà ce qu'on obtient. Et là, ces signaux sont magnifiques parce que on voit qu'on a bien fait là. On voit qu'on a réussi un truc excellent. On a trouvé 3 signaux sous-jacents qui sont associés au rythme cardiaque de la mère. Le quatrième composante ici, c'est un signal de respiration qui sort très proprement. Il n'y a quasiment pas de contamination cardiaque dedans. Le cinquième signal, eh ben oui, c'est un signal qui a un rythme cardiaque deux fois plus rapide que celui de la grande personne qui est là, parce qu'il s'agissait ici d'une femme enceinte. Et donc, on a extrait ici l'électrocardiogramme fœtal. Vous voyez comme c'est chouette? Voilà, donc, ça, c'est ce qu'on va essayer de généraliser et de comprendre et d'analyser. L'analyse d'un composante indépendante vous fournit un critère de séparation qui est beaucoup plus puissant que la décorrélation, mais qui est toujours plausible, en fait. Enfin, toujours. L'indépendance, c'est une propriété qui est très forte, mais très plausible dans beaucoup de contextes. Ici, ça marche, en tout cas. Voilà. Alors, voilà les questions qu'on va se poser. On va donc réfléchir à un modèle où des observations X1, X2, X3, ou XN, bien sûr, résulterait d'un mélange de sources indépendantes à travers une matrice de mélange. Et puis, on voudrait séparer ces signaux pour obtenir des composantes plus intéressantes. Et si on connaît la matrice grand A, on obtient nos signaux sources en appliquant son inverse. Je ne suis pas du tout ici dans un cadre où on fait ce qu'on appelle les problèmes inverses, c'est-à-dire dans un cadre dans lequel il y a un système ici linéaire qui est difficile à inverser. C'est pas du tout ça. Le problème, c'est pas qu'on a du mal à l'inverser, c'est qu'on ne le connaît pas. C'est qu'on est aveugle. Dans ce contexte de cécité complète, on ne peut pas faire mieux que de retrouver nos sources à une échelle près, à une permutation près, à un signe près. C'est pas quelque chose qui est possible avec la faiblesse de nos hypothèses. Donc, nos hypothèses, ce serait, je répète, des sources indépendantes, une matrice carrée ici, inversible. C'est le modèle le plus simple qu'on puisse considérer. Alors, il y a tout de suite des questions qu'on peut se poser. Est-ce en particulier si on reste. La matrice de mélange ici va transformer ces signaux indépendants en signaux qui ne sont plus du tout indépendants, mais si on réussit à restaurer l'indépendance à la sortie de cette matrice, est-ce qu'on a fait le boulot? Est-ce qu'il suffit. Donc le mélange crée de la dépendance. Est-ce que restaurer l'indépendance inverse le mélange et sépare? Ça, c'est une grande question. Est-ce que ça suffit pour séparer. Est-ce que cette histoire d'indépendance, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire sur le plan statistique? Ou est-ce que c'est juste un pis-aller, en quelque sorte? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Et troisièmement, même quand on a... C'est quelque chose qui me semble assez important. Même quand le modèle ne tient pas, même quand on n'a pas tellement de raisons d'espérer que les données qu'on observe sont résultent d'un mélange de composantes indépendantes, même dans ce cas-là, est-ce que ça ne vaut pas le coup de quand même d'essayer? Parce que vous voyez, c'est intéressant d'avoir des signaux vectoriels qu'on peut expliquer en termes d'une... un petit peu comme on l'a fait ici, en termes d'une base... qui nous fournit des composantes indépendantes. Parce que l'indépendance, quand même, statistiquement, c'est bien agréable. Alors, ça va être notre programme. Et on peut répondre tout de suite à la première question, qui est théorique, en quelque sorte, à travers des théorèmes qui ne datent pas d'hier. Vous voyez, c'est un petit peu vieux, déjà. Là, je donne une version simplifiée d'un théorème de 1953, qui nous dit exactement ce qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire que si j'ai deux variables aléatoires mélangées, si elles sont indépendantes, le mélange ne va pas être indépendant, à moins que ce mélange en fait ne soit pas un mélange, c'est-à-dire que la petite matrice ici soit juste une matrice de permutation ou une matrice diagonale ou quelque chose comme ça. Donc... ceci dit, il y a une condition très importante, c'est la non-gaussianité ici. Donc mélanger des variables indépendantes non-gaussiennes, ça les rend dépendantes. Il y a une seule façon de restaurer l'indépendance, c'est de les séparer. Alors, l'importance de cette condition de non-gaussianité, elle va être illustrée par le schéma qui est ici. Vous voyez, j'ai pris ici deux variables indépendantes gaussiennes, et ici, deux variables indépendantes uniformes. Je trace l'histogramme des points obtenus. Et dans cette colonne ici, je fais une rotation, et dans celle-ci, une transformation quelconque. Alors le point critique, il y a deux choses à remarquer, bien sûr. C'est que dans ce cas très très simple, où on a ce motif bien carré, on peut lire carrément les colonnes de la matrice de mélange en regardant les axes de cette distribution 2D. Enfin, ça ne va jamais arriver dans la vraie vie. Mais le point critique, c'est le point qui est indiqué dans les conditions du théorème. Si vous avez des sources gaussiennes de même variance, si vous les tournez, vous voyez toujours la même distribution. Une distribution qui est toujours circulaire, ces variables sont indépendantes. Voilà, donc là... Pour pouvoir voir les rotations en aveugle, il faut que les données ne soient pas gaussiennes. Bien, alors, bon, ça c'est bien, ça nous donne... ça peut être étendu, bien sûr, en dimension quelconque, hein. C'est la théorie, mais en pratique, comment faire? Donc, dans le bon vieux temps, quand j'étais jeune, on a commencé à s'intéresser à ce problème-là, moi et quelques collègues, et on n'était pas très fort en statistique à l'époque, donc on a essayé tout un tas de trucs. Il y a pas mal d'idées qu'on peut essayer de mettre en place. La première, c'est effectivement d'utiliser comme critère de séparation l'idée de retrouver des sources indépendantes. Comment est-ce qu'on mesure cette indépendance? L'information mutuelle, oui, ça, a priori, ça a l'air bien, mais c'est un petit peu compliqué de travailler avec l'information mutuelle, parce que mesurer une information mutuelle, ça implique d'estimer des densités de probabilités à grande dimension. C'est quasiment infaisable. Hein, donc il faut trouver d'autres idées. Des idées, ça pourrait être d'utiliser des moments d'ordre supérieur qui n'ont pas très bonne réputation, mais qu'on peut quand même dompter en faisant attention. Qui ont l'avantage de fournir des équations algébriques pour estimer la matrice de séparation. Mais je ne vais pas du tout parler de ces méthodes avec les ordres supérieurs. C'était ma jeunesse, c'était avant qu'on soit illuminé par notre collègue Pham de Grenoble qui nous a dit « Faites du maximum de vraisemblance ». Bah oui, bien sûr. Alors je vais en fait vous montrer maintenant l'approche de maximum de vraisemblance qui permet de comprendre un certain nombre, ou même en fait toutes les idées qui sont indiquées ici. Donc les autres idées qu'on pourrait avoir, ce serait de dire par exemple, on va chercher les sources qui sont les moins gaussiennes possibles. Bah, vous savez que quand on additionne des variables indépendantes, leur somme tend vers une gaussienne. Donc, mélanger gaussianise. Donc, est-ce que par hasard, dégaussianiser ne démélangerait pas ? Donc, ça peut être une bonne idée d'essayer de trouver des sources non gaussiennes. Ou peut-être des sources sparses, très à la mode comme approche pour traiter en particulier les systèmes linéaires. Il y a une autre idée, ça c'est le tout premier algorithme par Jutten et Hérault. Ils ont dit, regardez, la condition de décorrélation simple, on pourrait la remplacer par une autre dans laquelle on appliquerait à nos signaux des variables, des fonctions non linéaires, phi et psi. En introduisant des fonctions non linéaires ici, on va casser la symétrie de la corrélation et on va obtenir autant de conditions d'indépendance que l'on veut. Parce que, bien sûr, si YI et YJ sont indépendants, le moyen est nul. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est l'idée d'introduire des fonctions non linéaires pour casser la symétrie de la corrélation. Alors tout ça, en fait, on va pouvoir le comprendre à travers le principe du maximum de vraisemblance. Mais encore plus joli, enfin j'espère que ça vous plaira, je vais vous montrer comment ça s'illustre à travers la géométrie de l'information. La géométrie de l'information, je vous présente Shonichi Amari, le grand maître de la géométrie de l'information telle qu'elle est appliquée dans beaucoup de contextes, en particulier dans les neurosciences. Alors, que nous dit Shonichi Amari ? Ce n'est pas le premier à l'avoir dit, mais c'est vraiment une figure majeure. Ben, il nous dit, on a des modèles probabilistes, on travaille avec des distributions de probabilité, considérons ces distributions de probabilité comme des points dans un grand espace. Un espace donc, où chaque point a une distribution de probabilité. Et en particulier, quand on construit un modèle paramétrique, c'est un modèle avec des petits paramètres, des paramètres réglables qui vous permettent d'avoir une famille de distribution. Et cette famille, on peut la voir comme une variété différentielle. Et on va faire de la géométrie sur cette variété différentielle. Comme Stéphane l'a déjà bien illustré, dès qu'on essaye de regarder des divergences d'une distribution à une autre, il y a vraiment une façon très 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 canonique et presque inévitable de faire. Il y a beaucoup de variantes qui existent pour définir une divergence, mais la divergence de Kullback, c'est la divergence reine. Elle a toutes les bonnes propriétés qu'on voudrait, sauf peut-être la symétrie. Mais non, même la symétrie, on veut pas une distribution symétrique parce que vraiment les données c'est une chose, les modèles c'en est une autre. Pourquoi chercher une symétrie là-dedans ? Bon, alors, Stéphane l'appelle la divergence de Kullback-Leibler. Tu m'as beaucoup troublé, Stéphane. J'ai dû consulter Wikipédia et mes sources. C'est Kullback-Leibler. Mais, c'est quand même très joli, parce que j'ai cherché Leibler. Mein Leibler, qu'est-ce que ça veut dire ? On a des germanistes, là. Ça veut dire mon chéri. Donc, moi, j'aime beaucoup la divergence de Kullback Leibler, mais Kullback-Leibler serait Kullback-Chéri. Ça me plaît bien. Alors, pour éviter quand même les familiarités, je me contenterai de l'appeler la divergence de Kullback. Stéphane en a parlé régulièrement. Je vous rappelle la définition ici. Et en particulier le fait qu'elle intervient spontanément quand on regarde la vraisemblance. Donc la log-vraisemblance de n'importe quelle distribution dans votre modèle paramétrique ici, il se trouve qu'elle, en moyenne, elle correspond à la divergence de Kullback entre la distribution des données et n'importe quel point de votre modèle. Et donc faire du maximum de vraisemblance, c'est minimiser la divergence entre la distribution de vos données et les distributions de votre modèle. Alors, vous voyez, il y a deux... Donc voilà la divergence que vous devez minimiser si vous voulez faire du maximum de vraisemblance. Il y a deux sortes de travail, deux sortes de travaux à accomplir là-dedans. Il y en a un qui est de se rapprocher dans le modèle du point le plus vraisemblable. Ça, c'est un travail d'optimisation. C'est l'erreur qu'il y a dans le modèle. Et puis, il y a l'erreur au modèle. Ça, c'est plutôt le travail du modélisateur. Si votre modèle est trop faible, il n'y a pas assez d'expressivité, vous risquez d'avoir une grande divergence ici, mais ce sont deux tâches bien distinctes. Alors, concernant le travail de l'optimiseur, lui, il doit trouver le point de vraisemblance maximale, mais il n'est pas obligé d'y aller exactement. Pourquoi ? Je vais vous montrer ça à la planche suivante, mais je voudrais quand même souligner ce point. On va souvent paramétrer explicitement les modèles de distribution qu'on veut faire, mais dans l'approche géométrique, ces coordonnées, elles sont pas si importantes que ça. L'approche géométrique, c'est vraiment une approche idéalement où il n'y a pas de coordonnées du tout, quoi, parce que c'est juste de la géométrie. Alors, je vais justement vous montrer un algorithme de séparation de source où on estime la matrice A, mais en fait, la matrice de mélange, mais en fait, il n'y a pas de paramètres. Je vais vous faire de l'inférence statistique sans paramètres. Bien, alors, concernant les erreurs d'optimisation, ce n'est pas la peine de finasser. Hein, parce que vous avez vu la borne de Kramer-Rao. La borne de Kramer-Rao vous dit qu'un estimateur sans biais, il est forcément. Il ne peut pas trouver exactement la vraie distribution sous-jacente. Il y a forcément une variabilité qui est liée simplement au contexte statistique. Et que par conséquent, il y a une zone d'incertitude, une fois que vous avez trouvé le maximum de vraisemblance autour de la distribution vraie, qui est incompressible. La borne de Kramer-Rao exprime ceci en disant qu'on ne peut pas, en gros, être beaucoup plus précis que l'ellipsoïde qui est définie par la matrice de Fischer, qui est ici. Mais ce qui est très amusant, c'est la connexion avec Kullback. Parce que si vous regardez la divergence de Kullback entre une distribution proche et que vous faites le développement limité, le premier terme qui va sortir, eh bien, c'est avec la matrice de Fischer ici. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'incertitude qui est liée à la borne de Kramer-Rao, l'incertitude incompressible, en fait, elle vous dit que vous allez tomber, que la cellule de résolution, en quelque sorte, d'un modèle probabiliste, les cellules de résolution, elles sont données par les boules de Kullback de rayon 1, ou peut-être 2 si vous voulez être un petit peu plus sûr de votre coup. D'accord ? Donc vous voyez comment ici les boules de Kullback vous définissent la résolution, les cellules de résolution d'un modèle. C'est joli. L'étape suivante, quand on parle de Kullback, c'est de parler de distribution exponentielle. Stéphane en a déjà largement parlé. Il y a une définition officielle pour les familles exponentielles de distribution. Des distributions qui prennent la forme qui est indiquée ici. Il y a trois termes. Un terme qui ne dépend pas des paramètres, qu'on peut prendre souvent comme étant une distribution de référence. Il y a un terme qui ne dépend pas des données, et puis il y a le terme exponentiel qui couple les données et les paramètres, donc tout va se jouer là en ce qui concerne l'inférence. Et les distributions exponentielles, elles sont chouettes parce qu'on peut trouver un paramètre qui agit linéairement sous cet exponentiel. Bon, ça c'est la définition officielle, mais moi je voudrais vous proposer une définition alternative, un peu plus géométrique peut-être. Voilà une distribution P0, en voilà une autre, P1, comment on va de l'une à l'autre ? Par un chemin, par un bon chemin. C'est quoi toutes les distributions qui sont entre les deux, en quelque sorte ? On peut définir plein de chemins entre deux distributions, mais il y a un chemin particulier qui est le chemin exponentiel, qui consiste à dire, ici j'ai une distribution P alpha, que j'obtiens en combinant linéairement les logs. Log de P alpha de X, ce serait 1 moins alpha log de P0 de X plus alpha log de P1 de X. Et comme tout ceci ne va pas nous faire une distribution, je suis obligé d'introduire un petit terme de correction. Donc moi j'appelle ça le segment exponentiel qui connecte deux distributions Et effectivement, c'est ce que j'ai écrit ici, on peut le réécrire comme une mini-famille exponentielle qui va donc d'un point à un autre par un chemin qui est naturel au sens des probables, puisqu'il y a cette log densité avec laquelle on joue. Alors, naturel. Les familles exponentielles ont plein de propriétés mirifiques, mais dans le cadre de la géométrie de l'information, pourquoi elles sont mirifiques ? C'est parce qu'en fait, elles forment des variétés plates, dans un certain sens. C'est dans le sens suivant. Si je vous montre une famille exponentielle, je prends une distribution P qui n'est pas dans la famille, je la projette sur la famille exponentielle au sens de minimiser le Q-bac de PAQ, et je regarde maintenant la distance qu'il y a, enfin, la divergence entre la distribution de base et une autre distribution de la famille. Et on a un théorème de Pythagore ici. Il y a un angle droit dans un certain sens. Le sens étant que si je calculais une matrice de Fischer à cet endroit-là, avec les paramètres ici et les paramètres là, je trouverais qu'elle est diagonale. Mais je ne veux pas trop regarder ce qui se passe de ce côté-là. Je vois juste vous montrer cette formule-là, qui est un espèce de théorème de Pythagore, hein, dans lequel la divergence de Kullback jouerait le rôle du carré d'une distance euclidienne. Voilà, alors ça c'est très chouette, et on va tout de suite le mettre au travail pour définir plusieurs quantités intéressantes. La première, ce serait la non-gaussianité. Voici ici une variété, une famille qui est la famille de toutes les distributions gaussiennes pour un vecteur de moyenne nulle. En fait, dans tout ce que je vais dire plus tard, tout est à moyenne nulle. Ça va nous simplifier un petit peu la vie. Voilà, donc toutes les distributions là-dedans, elles sont spécifiées par une matrice de covariance, sigma. Mais évidemment, il y en a une qui est un petit peu spéciale, c'est la matrice de covariance de la variable y dont je pars. Et il s'avère, et ce qui montre bien que la divergence de Kullback est bonne fille, il s'avère que la distribution gaussienne la plus proche au sens de Kullback d'une distribution quelconque, c'est celle qui a la même matrice de covariance. Bon, c'est bien. Et à nouveau, on peut définir la non-gaussianité d'une distribution quelconque comme sa divergence à la famille exponentielle des distributions gaussiennes. Moi, j'appelle ça la non-gaussianité. Et vous voyez que la divergence totale de cette distribution à toute distribution gaussienne a deux morceaux. Un morceau qui mesure la divergence au modèle et puis une divergence dans le modèle. Donc ici, c'est la non-gaussianité. Et puis ici, à quoi est due la divergence qui est ici ? Ben, à une différence entre deux matrices de covariance. Donc on a ces deux morceaux, une non-gaussianité et ce que j'ai appelé covariance mismatch. Donc ça, c'est ce que la théorie de la vraisemblance nous suggère de prendre comme définition de la non-gaussianité, et c'est très naturel. Et on va faire la même chose maintenant pour une autre famille exponentielle, mais celle-ci, elle n'est pas finie dimensionnelle, c'est toutes les distributions à composantes indépendantes. D'accord ? Donc ça, c'est infini dimensionnel, mais si vous vous amusez à calculer un chemin exponentiel entre deux distributions qui ont des composantes indépendantes, les composantes sont indépendantes, donc la distribution, c'est le produit des marginales. Donc quand on prend le log, c'est la somme des logs marginales. Quand on combine linéairement ces deux distributions comme ça, on continue à avoir une somme de logs de marginales, et donc on a bien une famille à distribution indépendante, à composantes indépendantes, tout le long de cette trajectoire. Donc cette famille qui contient tous les segments exponentiels qui joignent n'importe quel point, c'est une famille exponentielle. Et maintenant, on regarde, à nouveau, on fait le même exercice, on part d'une distribution P de Y, on regarde sa distance à l'indépendance, et on regarde même la distance à n'importe quelle distribution à composante indépendante. Eh bien, il y a deux bouts à nouveau, un morceau qui va mesurer la divergence à l'indépendance, donc ça, c'est l'information mutuelle, telle qu'on vient de la voir au cours précédent. Et l'autre morceau, ben, c'est la divergence dans le modèle. Comme on a ici partout une factorisation des densités, ce que ça va donner au niveau du culbac, ça va donner la somme des culbacs. Autrement dit, la divergence entre une distribution quelconque et une distribution en composantes indépendantes, il y a deux composantes. Une partie information mutuelle qui mesure la dépendance et puis une partie qui mesure l'écart entre les différentes marginales. Voilà. C'est tout pour le moment. Je reviens maintenant à l'ICR. Bon, là, il y a un petit peu trop d'équations. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Je résume notre modèle. On a donc à nouveau des sources indépendantes qui sont mélangées, qui nous donnent nos observations, et on voudrait faire un séparateur. Notre modèle pour... Donc maintenant on fait la vraisemblance. On regarde la vraisemblance de ce modèle-là. Donc il y a deux bouts. Il y en a un qui est la matrice de mélange et l'autre qui est la distribution de chacune des sources. Ne croyez pas que c'est par pédanterie, enfin pas tout à fait, que j'ai écrit ici A appartient à GL de N. La matrice A, on va la supposer inversible, donc on peut dire qu'elle appartient au groupe linéaire. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que ce paramètre matrice de mélange, il vit dans un groupe multiplicatif. Et donc, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, il y a une petite branche, une sous-branche des stats, où on considère le cas où les paramètres inconnus vivent dans des groupes. Et chez nous, ça va nous faire beaucoup de bien, vous allez voir tout de suite, de garder ça en tête. Bien, alors regardons donc la première partie de notre investigation, c'est de regarder l'effet de notre premier paramètre, la matrice de mélange, qui nous permet d'exprimer la distribution des observations de façon complètement simple, puisque on sait très bien expliquer la façon dont la distribution de S devient la distribution de X, on applique la formule de transformation. Mais ça nous parle pas tellement. Ce qui est plus intéressant, à mon sens, c'est de regarder ce que ça donne quand, au lieu de considérer directement les densités, on regarde le culbac. Donc, on a vu que le maximum de vraisemblance consistait à considérer le culbac entre distribution des données et un modèle. Ici, notre modèle, c'est un modèle où x est égal à s. Et je passe à la ligne suivante parce que sans coup férir, parce que la divergence de culbac elle est invariante. C'est-à-dire que si vous avez deux distributions avec une certaine divergence, correspondant à deux variables qui sont ce qu'elles sont, si vous transformez vos variables par n'importe quelle transformation inversible, le culbac ne bouge pas. D'accord ? Donc en particulier, je peux appliquer A inverse à X et A inverse à AS, ici je trouve la distribution des sources, et là je trouve ce que j'aurais hypothétiquement à la sortie d'un séparateur qui aurait la matrice A pour inverse. Donc voilà, la divergence de culbac nous dit, finalement, ce qu'on veut faire, c'est regarder, s'assurer qu'on a la même distribution ici et là. On veut restaurer la distribution des sources, en fait. Mais maintenant, dans toute la suite, on va pouvoir se contenter de regarder ce qui se passe ici. On va se poser la question de comment se comporte cet objectif où on voudrait ajuster la distribution d'un vecteur sous transformation linéaire sur une distribution en composante indépendante. Bon, là, c'est un petit peu un remake d'un épisode précédent, hein, puisque je vous montre... à nouveau la variété des distributions à composantes indépendantes, la projection d'un vecteur quelconque là-dessus. Et il y a deux morceaux. Et ces deux morceaux, ils ont une interprétation extrêmement simple. Notre critère de vraisemblance, ici, il se compose de l'information mutuelle, donc la dépendance qu'il y a entre les entrées de Y, plus un autre morceau qui est dans le modèle et qui nous dit est-ce que chacune des marginales ici ressemble au marginal qu'on a, supposé à l'entrée. Alors maintenant, j'ai indiqué ici trois possibilités. Parce que vraiment, si vous êtes dans un contexte où on connaît la distribution des sources, ne vous embêtez pas, essayez de faire ça tout de suite, P2S est connu, minimisez cette divergence, il y a un algorithme super simple, enfin assez simple, que je vais vous montrer, qui permet de faire ça. Bon, mais maintenant, ça, c'est pas tout à fait aveugle. Le truc aveugle, c'est on connaît rien sur les sources, donc on va les estimer. Et bien, si on veut les estimer au sens du maximum de ressemblance, c'est assez facile, parce qu'il suffit de prendre P2S égale P de produit des YI, vous minimisez le culbac en venant ici, et donc il ne reste plus qu'un seul bout ici, qui est l'information mutuelle. Donc vous voyez que le critère d'information mutuelle, en fait, c'est le critère ultime pour faire de l'ICR en étant totalement aveugle. La vraisemblance nous dit minimiser l'information mutuelle. Entre les deux, il y a un phénomène assez intéressant. C'est que même si vous ne connaissez pas bien la distribution des sources, vous pouvez faire une hypothèse, même grossière, et ça risque de marcher. Et ça risque de marcher pour une raison que je voudrais illustrer à nouveau géométriquement. Donc je vais refaire le dessin qui est là-haut, mais en live, et puis avec une dimension de moins, parce que je suis au tableau. Donc voilà la distribution des sources, des vraies sources. Supposons qu'il y ait des vraies sources. La distribution des vraies sources, elle fait partie d'une grande famille de distributions à sources indépendantes. Il y en a d'autres, ici ou là, peu importe. Donc ça, c'est la distribution dont les composantes sont indépendantes. Et quand on mélange, si je prends S et que je le transforme en X égale A fois S, bien, vous vous souvenez, mélanger tue l'indépendance. Donc on sort immédiatement de la famille à composante indépendante. Et finalement, le théorème de Darmois, il nous dit exactement ça. Vous sortez de là, vous ne pouvez pas rester indépendant si vous mélangez. Faire le maximum de vraisemblance, ça consiste à dire, voilà, j'ai des données qui sont ici, je voudrais retrouver les sources, voilà ma cible. C'est le culbac entre ici et là. Ce qu'on a discuté à l'épisode précédent, c'était de dire, oui, même si on ne connaît pas les sources, on peut... Regardez ici la projection des observations, telle qu'elle se projette ici. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Y, il vaudrait mieux l'appeler. Non, Y, c'est bon. Et voilà votre cible. Mais si vous avez une autre hypothèse sur la distribution des sources, par exemple celle-ci, vous pouvez aussi viser ça. Parce que si vous voulez minimiser cette divergence en restant uniquement sur les transformations linéaires, où est-ce que vous allez arriver? Vous allez arriver ici. Ça, c'est le point le plus proche. Et c'est le point le plus proche parce qu'en fait, ici, il y a un angle droit. Donc voilà pourquoi on peut en fait avoir un modèle assez grossier pour la distribution des sources, si on veut. Ça ne va pas casser la consistance. Enfin, ça ne va pas biaiser l'estimation du paramètre de mélange parce que l'impact du paramètre de nuisance, ici la distribution de sources qui est inconnue, cet impact se fait sentir orthogonalement par rapport à l'impact du paramètre de mélange. Et quand je dis orthogonalement, à nouveau, c'est que si je construisais une matrice de Fischer correspondant aux directions, direction de mélange, direction d'indépendance, je trouverais que cette matrice de Fischer elle est bloc diagonal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couplage en fait, entre estimation des sources, de la distribution des sources, et estimation de la matrice de mélange. Bien, alors tout ça est bel et bon, mais vous avez remarqué qu'on n'a pas encore, là-dedans, on n'a pas encore fait rentrer la non-gaussianité. Donc maintenant, on revient sur la non-gaussianité, et à nouveau, on va faire de la géométrie sur cette base-là. Et je voudrais vous montrer la connexion entre non-gaussianité et indépendance. De la façon suivante. Les statistiques, c'est difficile. Et en plus, tous les modèles sont faux. C'est quand même un problème. Mais il faut faire des approximations. Et il y a vraiment des approximations qui simplifient immensément la vie des statisticiens. Il y a l'approximation gaussienne, représentons une distribution par des gaussiennes, et l'approximation indépendante. Supposons que mes différents objets qui sont là sont indépendants les uns des autres. Eh bien, si vous êtes complètement aux abois, vous pouvez aussi faire les deux approximations en même temps. Donc voilà une distribution qui est ici. Je pourrais l'approcher par la distribution gaussienne la plus proche. C'est la distribution gaussienne qui a la même matrice de covariance. Ou bien je pourrais l'approcher par une distribution qui est des composantes indépendantes. Elle a les mêmes marginales que ma distribution ici. Et si vraiment ça va mal, je peux faire les deux approximations en même temps et on tombe sur un point. Donc ici, une distribution gaussienne dont la matrice de covariance est diagonale et qui a sur la diagonale uniquement la variance de chacune des entrées du vecteur Y. OK. Alors ces opérations, vous voyez, on se souvient, ici on a l'information mutuelle. Vous voyez, quand on projette sur l'ensemble des distributions gaussiennes, qui est ici, oui, j'aurais peut-être dû le dire, ça c'est les distributions gaussiennes, et ça c'est les distributions indépendantes. Donc, quand on projette l'information mutuelle sur cette variété gaussienne, c'est intéressant de voir ce qu'on trouve. On trouve un cul-back entre une distribution gaussienne avec une certaine matrice de covariance et son approximation par la diagonale de cette matrice de covariance. Donc, c'est quoi cette quantité ? L'écart qu'il y aurait entre une matrice de covariance et sa diagonale, mesurée par cul-back, c'est la corrélation. On mesure la non-diagonalité de la matrice de covariance. Donc moi, cette quantité-là, je vais l'appeler corrélation. Vous voyez, on voit apparaître la corrélation comme une version dégradée de l'information mutuelle, quand on mesure l'information mutuelle qu'à travers une approximation gaussienne. Donc je reprends notre petit schéma et je mets les étiquettes qu'on vient de discuter, l'information mutuelle ici, la non-gaussiennité là, la corrélation que je viens de discuter, et ici, quand on projette la non-gaussiennité sur la variété des distributions indépendantes, c'est la somme des gaussiennités marginales, des non-gaussiennités marginales. Bien. Alors, le truc rigolo, c'est qu'on a deux théorèmes de Pythagore, mais on a une seule hypoténuse. Voilà, les deux triangles qui sont ici partagent la même hypoténuse, et par conséquent, on peut maintenant connecter de façon directe les quantités qu'on vient de considérer, l'information mutuelle, les non-gaussiennités marginales, la corrélation, la gaussiennité jointe. Pour l'ICA, il faut voir que la non-gaussiennité est fixe, parce que quand vous avez une distribution et son approximation gaussienne, si vous transformez ces deux distributions pour une transformation linéaire, le cul-back va rester impavide. Donc, en fait, sous transformation linéaire, la non-gaussiennité jointe ne bouge pas. Ce qui change, ce sont les non-gaussiennités marginales. Là, effectivement, on le sait bien, donc mélanger, ça gaussiennise. Pas globalement, sur les marginales seulement. Bien, autrement dit, on a réussi maintenant à réécrire notre objectif ultime d'information mutuelle minimale comme ayant deux parties pour nous significatives, rendre les composantes aussi indépendantes que possible au sens de l'information mutuelle, c'est les rendre à la fois décorrélées et non gaussiennes. Et voilà. OK. J'en ai fini pour ça. Combien de temps j'ai ? J'ai encore 10 minutes, c'est ça, ou pas ? Ou non ? Hein ? 5 ? 5, d'accord. Ah oui, donc j'étais censé m'arrêter à midi. Je comprends le message. D'accord. Alors, je ne sais pas si je vais vous parler... Qu'est-ce que je sélectionne là-dedans ? Une petite remarque. Est-ce que l'ICA, c'est dur ? C'est peut-être dur, mais c'est uniformément dur. À cause du fait que la quantité d'intérêt, c'est la matrice de mélange et qu'on voudrait l'inverser, la difficulté du problème est complètement indépendante du conditionnement de la matrice de mélange. C'est assez simple à voir, mais c'est assez frappant. Donc voilà deux sources uniformes auxquelles je fais subir ici une rotation. Et puis j'applique un certain algorithme de séparation de sources et je trouve ma foi, les sources restaurées à peu près. Je n'ai pas un alignement parfait des axes, mais c'est pas mal. Si j'applique le même algorithme aux mêmes données, aux mêmes sources, mais qui ont été maintenant transformées par une transformation méchante, je trouve exactement la même chose. Et si je ne fais pas de transformation du tout, je trouve à nouveau exactement la même chose. Le comportement statistique de la séparation, quand on le voit du bon côté, il est complètement indépendant du conditionnement du mélange. C'est assez frappant, mais c'est comme ça. Et si on y réfléchit plus, on voit que c'est dû au fait que toutes nos méthodes, elles consistent à essayer de restaurer une propriété qui dépend que des sorties ici. Bien, je ne vais pas vous montrer ça. Donc ici, je voulais vous montrer, regardez maintenant les dérivés de la log vraisemblance, en gardant en tête cette idée qu'on travaille sur un groupe, hein, donc en considérant des dérivés qui sont en fait obtenus à l'aide de coordonnées locales, mais je vous montre quand même l'algorithme d'ICA le plus simple du monde, et qui marche. Pas très bien, hein, faut pas rêver, mais qui fait quand même essentiellement ce qu'on lui demande, à condition peut-être de choisir un pas d'apprentissage suffisamment faible ici. Donc ça, ce serait l'algorithme d'ICA qui résulterait de plusieurs choses. Premièrement, on va ici faire une hypothèse que on ne connaît pas la distribution des sources, donc on va faire une hypothèse à la place qui est que c'est une distribution à queue lourde, donc des queues ici beaucoup plus lourdes que la gaussienne. Et ceci va donner lieu à l'apparition, si on prend un modèle qui est... C'est un cosinus hyperbolique ? A sur un cosinus hyperbolique. Voilà, ça c'est une distribution qui a une queue plus lourde que celle de la gaussienne. Sur la base de ce modèle-là, vous allez faire apparaître, en regardant la dérivée, la dérivée de la log vraisemblance, vous allez faire apparaître une fonction tangente hyperbolique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet algorithme ? Il y a ici le calcul d'un gradient que j'appelle le gradient relatif, et puis on ajuste les données en leur faisant subir une petite rotation. Et vous voyez, ça c'est un algorithme où il n'y a pas de matrice de mélange. Il y a juste des données. Je regarde dans quel état elles sont, je regarde si je peux augmenter un peu la vraisemblance par un petit mouvement identité plus epsilon, une petite matrice. Je trouve le epsilon qui est aligné sur le gradient, je mets un signe moins devant, je mets un petit pas d'apprentissage, et je claque, je répète. Je touche qu'aux données, il n'y a plus de paramètres, c'est un algorithme sans paramètres. Inférence sans paramètres. C'est marrant. Donc ça, c'est lié au fait que je travaille dans un modèle de transformation. Je peux oublier en fait mes paramètres et travailler que sur les données. Alors là, c'est la matrice de Fisher. Elle est hyper simple, mais on n'a pas le temps de rentrer dedans. Conclusion. Alors, j'ai pas une vraie conclusion, mais comme je suis en retard, ça tombe bien. Donc, je rends hommage au maître à Marie. Je me demande si ICA, ça pourrait être utilisé, investiguer un peu plus ces méthodes d'ICA pour faire de l'analyse exploratoire, c'est-à-dire pas dans le cas où on sait qu'il y a des sources sous-jacentes et qu'on essaye à tout prix de les retrouver, mais juste comme outil pour peut-être lutter contre la malédiction de la dimension, puisque vous voyez qu'on obtient par l'ICA un modèle dans lequel il n'y a plus qu'une partie linéaire qui est la matrice de mélange et puis des distributions marginales. Donc on casse pas mal le problème de modéliser la dimension. C'est un modèle de dimension faible et qui est assez général. Donc peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Alors je ne vous ai pas du tout dit ce que j'ai fait pour récupérer le fond de rayonnement fossile. Et en fait, il y avait plein de bonnes raisons pour ne pas utiliser des méthodes à base de non-gaussianité. La première de ces raisons étant que le rayonnement fossile lui-même, c'est la réalisation d'un champ gaussien stationnaire avec une très 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 bonne approximation. Donc la source d'intérêt, déjà, elle est gaussienne. On peut vivre avec, mais c'est pas génial. Non, ce qu'il vaut mieux faire, c'est repartir sur les bases de la vraisemblance et se demander comment s'y créer la vraisemblance quand les composantes qu'on observe, ce sont des champs gaussiens. Donc maintenant, on va prendre en compte, dans ce cas-là, la corrélation à travers l'espace ou à travers le temps, etc. Et si on fait la théorie de ça, on voit que cette histoire de non-gaussianité doit être remplacée par une autre notion importante qui est celle de diversité spectrale. Donc si vous avez des sources qui sont gaussiennes mais qui ont de la corrélation, si leurs spectres sont différents, vous pouvez à nouveau faire de la séparation de sources en aveugle. Voilà, alors, si ça vous a amusé, ce que je vous ai présenté, ne ratez pas le séminaire la semaine prochaine de Frank Nilsson qui rentrera dans beaucoup plus de détails, puisque là, je suis resté juste à la surface de la géométrie d'information. Merci.